Eh bien donc, Tableval sans ellipse, la première de l'année. Bien sûr, je vous souhaite à tous, à ceux qui sont autour de la table ovale et qui vont parler sans ellipse, comme à ceux qui les écoutent, une excellente année 2014 et qui s'annonce chargée politiquement, puisque nous n'avons pas moins de 2 élections au cours de l'année. Les premières qui vont se présenter en mars étant les élections municipales. Aujourd'hui, autour de Claude Devezin, autour de la table ovale, Angelo Andreotti pour le Parti communiste français et Front de gauche, Bernard Mort pour l'Union des démocrates et indépendants, Jean-Louis Calmette pour Europe Écologie Les Verts, Jean-Sébastien Arcibal pour le Parti radical de gauche et Laurent Tranier pour l'Union pour un mouvement populaire. Et donc notre sujet, c'est comment les partis politiques préparent-ils en Aveyron et plus particulièrement à l'Ouest les élections municipales compte tenu des nouveautés. Les nouveautés, la première des nouveautés, c'est déjà l'instauration du scrutin de liste pour les communes en dessous de 3500 habitants jusqu'à 1000 habitants. C'est-à-dire que les communes de moins de 1000 habitants, vous pourrez continuer, chers auditeurs, à faire votre travail de raturage, de panachage, de biffage, soigneusement orchestré avant et pour aller voter. Mais après, au-delà, vous n'aurez plus ce plaisir de jouer avec les bulletins de vote. Vous n'aurez d'ailleurs plus le plaisir dans les communes de moins de 1000 habitants de voter pour des gens qui n'étaient pas candidats. Ça aussi, il faudra maintenant que tout le monde soit candidat, sinon le bulletin sera nul. Mais donc, dans les communes entre 1000 et 3500 habitants, c'est le scrutin de liste comme c'était le cas avant pour les communes de plus de 3500, ce qui veut dire qu'il a dû se constituer des listes, vraisemblablement patronnées par des politiques, encore qu'on connaît les unions d'intérêts locaux et autres vocables, mais il a fallu constituer des listes. Alors déjà, dans ma première question, c'est constituer des listes dans des communes de moins de 3500 habitants. Est-ce que les partis politiques se sentent concernés, sont concernés, et est-ce qu'ils ont œuvré dans ce sens, et est-ce que ça pose des difficultés, parce qu'on n'a pas toujours une implantation politicienne dans des communes de 1200 ou 1800 habitants. Monsieur Andreotti, au Parti communiste.
Si la question porte sur ces communes-là, qu'on qualifiera de rural, hein, pour simplifier, ou de rattacher le loin à une grande agglomération. Effectivement, vous avez dit, la question qui se pose, c'est de créer autour d'un projet et de figures rassembleuses, évidemment, sur ce projet, une dynamique suffisante. Et ce n'est évidemment pas facile partout, hein, c'est vrai. Maintenant, évidemment, on est dans une situation nouvelle. En ce qui concerne cette élection, je voudrais dire simplement que c'est une configuration qui change, d'accord, bien que bon, c'est l'apparition des élus communautaires et la parité.
Alors, on parlera
mais,
après.
Mais je voulais simplement dire que la situation nouvelle qui complique les choses, c'est que dans le Front de gauche, nous sommes une force tout à fait nouvelle et qui n'a derrière elle que 2 élections locales, comme les cantonales, comme les législatives, je veux dire, hein, et les régionales, antérieurement. Mais les présidentielles, c'est un cas de figure différent. Donc je veux dire que c'est un peu plus compliqué que d'habitude, dans ces communes-là en particulier.
Alors, est-ce que vous avez pu faire quelque chose? Comment vous y prenez? C'est ça ma question.
Alors, ce qui nous concerne, c'est depuis très longtemps que... je ne vais pas me limiter à ces communes-là, à ces petites communes, puisque j'ai fait l'exemple de Millau.
Non, mais après, on a bien d'autres sujets. Il va falloir parler de la parité, des conseillers communautaires.
Le principe de base que je vais donner en quelques mots, c'est que il a été laissé aux adhérents et aux candidats la prérogative de voter l'engagement au nom du Front de gauche ou de constituer, lorsqu'il y a des sortants, une liste avec les sortants. Donc c'est un vote qui a été organisé, un débat, depuis longtemps. Et comme par exemple, il s'est déroulé à Millau, et ces décisions, que ce soit dans les petites communes ou les autres, sont prises par les intéressés et non pas par les états-majors.
Y compris dans une ville comme Millau.
Voilà.
Monsieur Calmette, Europe Écologie Les Verts dans les communes de 3500, entre 1000 et 3500 habitants.
Je crois que c'est, comme vous l'avez dit, que ce sont plutôt des listes qui sont pratiquement apolitiques. Nous avons quelques candidats dans ces quelques communes, entre 1000 et 3500 candidats, mais qui ne sont pas affichés ouvertement politiquement. La population sait qu'ils ont quand même des particularités écologiques, mais je ne pense pas que ce soit un fait important. Et après, bon, sur les communes au-dessus, c'est réellement autre chose.
Oui. Et Monsieur Arcibal, au Parti Radical, comment on s'est organisé sur ces communes? S'est-on organisé, d'ailleurs?
Alors, par rapport à ces communes-là, il n'y a pas réellement, comme le disaient certains de mes confrères, une organisation bien spécifique, puisqu'en fait, c'est vraiment dans chaque village que ça se dessine. Non, un parti politique, il ne va pas réellement influencer sur ce genre d'élection, sur les petits villages, puisque ça va être avant tout des affinités qui vont se dégager autour d'une seule personne, comme le disait M. Andréotti, devant une tête de liste. Alors des fois, il n'y a même qu'une seule liste, il faut bien le rappeler, il n'y a pas forcément une deuxième liste. Par contre, il y a quelquefois des villages où il peut y avoir 300 habitants et plusieurs listes, donc il n'y a pas réellement une seule configuration. Bon, voilà, donc en parler avec certaines personnes donc qui sont au Parti Radical de Gauche, même s'ils font partie d'une liste, ils mettent pas en avant finalement un côté, on va dire, très politique, puisqu'en fait, on œuvre tous dans un intérêt général, et quand on est réellement sur une petite entité, c'est pas réellement la primauté aux idées politiques qui va définir un vote. Voilà.
Monsieur Tranier, à l'UMP.
Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Deuxième. Bonsoir à tous et meilleurs vœux à vous tous et aux auditeurs de CFM pour cette nouvelle année. Alors, comme mes collègues, peut-être je vais vous décevoir, mais oui, la différence existe entre la droite et la gauche. Il y a des différences sur des sujets...
Ça ne me déçoit pas, c'est l'objet de Table Ovale.
Oui, mais... Attendez la suite. Sur des sujets nationaux, des sujets économiques, des sujets de fiscalité, des sujets régaliens, sur les questions de justice, de police, d'immigration, oui, il peut y avoir des différences d'approche. Il y en a, entre la droite et la gauche. À l'échelle du département de l'Aveyron, je ne crois pas, à part peut-être la préfecture, qu'il y ait une collectivité, une commune, où il y ait de réelles différences idéologiques de fond, entre la droite et la gauche dans la gestion des affaires locales. On est sur des élections, on parle des élections municipales, autour de personnalités, autour de programmes, autour d'enjeux locaux, de gestion d'affaires locales, des affaires de crèche, des affaires de voirie, des affaires de sport, de culture, qui, à mon sens, n'appellent pas un clivage partisan, ou politique, ou idéologique. Voilà. Alors après, du coup, quel est le rôle des partis politiques dans ce contexte-là? Ben, localement, et je veux dire à l'échelle de l'Aveyron, pour ce qui est de l'UMP, l'UMP n'intervient pas. Localement, se dégagent des personnalités qui peuvent appartenir à l'UMP, évidemment, qui auront le soutien de l'UMP si ils le souhaitent, mais c'est pas le parti qui va dire un tel sera candidat à tel endroit. On se met... vous parlez de Villefranche, pour constituer une liste municipale, on observe quelles sont les personnalités dans la ville qui peuvent, par ce qu'elles font, par ce qu'elles sont, apporter à la ville, quelles sont leurs compétences, leurs capacités, et on essaie de constituer une liste avec un maximum de capacités pour la ville, pour être au service de la ville.
Et personne, là on sort des communes de 3500, mais personne ne songe à un maire d'une commune un peu importante. Bien sûr, personne n'imagine qu'il pourrait candidater ensuite aux législatives. Ça ne vient à l'idée de personne,
bien
entendu.
Ben si, mais alors là, on sort des débats purement locaux, qui, je vous le disais, hein, quand il s'agit d'école, quand il s'agit de petite enfance, quand il s'agit de sport, encore une fois, d'équipement, etc., n'appellent pas de clivage... idéologie,
de distribution de l'eau.
Ben oui, l'alimentation de la ville à nous.
Ça peut être privé ou public, par exemple. Il y a des différences entre la droite et la gauche.
Non, je crois qu'il n'y a pas de règles. Vous avez des communes de droite avec des gestions.
C'est dangereux de dire qu'il n'y a pas de différence entre une ville de droite et une ville de gauche.
Peut-être que ça vous déplaît, mais c'est mon sentiment. C'est mon sentiment. Et nous avons des exemples, et en particulier à Villefranche, où la gestion de l'eau a longtemps été en régie. Elle l'est toujours. L'alimentation de la ville en eau, enfin, se fait en régie. Et donc, il n'y a pas... Oui, c'est un maire qu'on peut dire de droite et du centre, à Villefranche. Et il y a des villes, pareil, de gauche qui ont sollicité des grands groupes privés pour leur alimentation en eau. Enfin, il n'y a pas de règles. Là, on est dans de la gestion, dans de l'efficacité locale. Ce qui compte, c'est être au service des habitants de la ville.
Alors, on est sorti, et puis il fallait bien en sortir, des communes de 2000 et 3500. Sur cet apolitisme, d'une certaine manière, dès lors qu'on parle de municipal, monsieur Mort.
Non, je tenais quand même à dire que, Bernard Mort, je parle au nom de l'UDI, mais là, c'est une réflexion simplement sur la bonne gestion. Il semble quand même que le fait d'avoir mis des systèmes de listes entre 3500 et 1000, ça évite des choses assez bizarres où le maire dans les communes était quelquefois parce que c'était lui qui avait fait le plus de travail et qui donc se trouvait à la vindicte de ses concitoyens. Donc il se trouvait que quelquefois dans les scrutins avec panachage, on avait la personne la plus valeureuse qui se trouvait en queue des élections. Bon, donc cette réforme-là, elle a quand même un bon sens, et c'est pas nous qui l'avons fait, c'est pas ni le centre ni la droite qui l'ont fait, mais on y souscrit. Donc je crois que ça, c'était une réforme qui était quand même valable pour puisque vous nous interrogiez sur la particularité de ces élections.
Alors, les dépouillements se feront plus rapidement aussi.
Après, c'est vrai que j'ai pas répondu, excusez-moi
directement. C'est quand même une des animations qui fait le plus recette dans nos communes, pourtant, là, depuis le scrutin. C'est malheureux.
Une difficulté tout de même que ça présente, c'est vrai que donc, qui dit liste dit parité absolue. Et il semble que dans certaines communes qui maintenant sont soumises aux questions entre 1000 et 3500 habitants et donc doivent constituer des listes complètes et paritaires, c'est-à-dire un homme, une femme sur la liste.
Alors ça l'aide pour le deuxième sujet.
Il y a une difficulté, voilà. Bon,
ben, est-ce que ça pose un problème, cette parité, dans la ruralité? Parce qu'au fond, c'est dans ces termes-là, dans une ville de 1200 habitants, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça va être difficile de trouver des dames qui se mêlent aux messieurs pour constituer une liste paritaire?
Et sans doute, mais il faut que la loi lance. Il faut que dans la société française, les femmes accèdent. Et comme d'ailleurs, elles prouvent tous les jours par de multiples interventions. Et bien sûr, nous sommes un peu à la traîne, je crois, la France. Dans ce domaine. Et je crois que la loi a ce rôle, même si ça peut paraître, comme vous le dites, un peu difficile dans les petites communes d'obtenir cette parité. Cependant, on ne peut pas tergiverser et reporter sans arrêt l'échéance.
Est-ce qu'on a des informations sur la manière dont ça se passe?
Ce que je sais des petites communes rurales qu'il y a dans le bassin, apparemment aux endroits où il n'y a qu'une seule liste, c'est pas difficile, mais c'est vrai que à partir du moment où il y a deux listes dans les communes rurales, ça doit être peut-être un peu plus difficile de trouver des femmes.
Alors, l'autre nouveauté, au-delà de ce scrutin de liste, c'est cette fois, ça ne concerne pas les villes de 1000 à 3500, ça concerne les villes de 1000 à beaucoup plus, les conseillers communautaires, c'est-à-dire les conseillers des communautés de communes. On a évoqué plusieurs fois ce problème au micro de gens qui lèvent l'impôt sans avoir été élus, et là, ils auront été élus. C'est-à-dire, mais moi je voudrais savoir quand même si on imagine qu'il y a beaucoup d'électeurs qui vont rejeter une liste qui leur aurait plu, parce que un tel ou Tartampion serait conseiller communautaire s'il votait pour elle. Ce qui veut dire que finalement, on nous impose. Monsieur Tranier, vous semblez intéressé.
Je suis très intéressé, oui, c'est un sujet qui est très important. Cette nouveauté dans le mode d'élection des conseillers communautaires, c'est un progrès pour la démocratie locale, vous l'avez dit. Les conseillers communautaires sont élus directement. Désormais, je crois que le grand mérite quand même de cette réforme, c'est de faire entrer la communauté de communes, qui est une structure très importante à l'échelon local et qui a vocation à le devenir encore plus, et en particulier à Villefranche, où jusqu'à présent, elle a eu un rôle un petit peu étroit. C'est une structure très importante, mais qui était totalement absente du débat démocratique local. Pour la bonne raison ce n'est pas la population qui élisait les délégués communautaires. Ils étaient élus par les conseils municipaux en leur sein. Et donc, il n'y avait jamais de débat dans les précédentes élections municipales.
Ils sont désignés avant au lieu d'être désignés après, mais par les mêmes.
Oui, par les mêmes, mais il y aura désormais, je le souhaite, et je l'espère, un débat sur des enjeux communautaires. C'est-à-dire qu'on parlera de programmes pour la communauté de communes, par exemple, dans la campagne municipale. Alors qu'avant, on n'en parlait jamais. On parlait à Villefranche des enjeux de la communauté de Villefranche, pour prendre l'exemple de la communauté de Villefranche dans les communes alentour, Toulon-Jacques-Savignac, des enjeux de la campagne dans chaque commune. Mais on ne parlait pas de la communauté de communes elle-même et des projets qu'on peut porter pour la communauté de communes, qui est une collectivité jeune, avec des moyens importants, avec des responsabilités importantes en termes de développement économique, et notamment. Et donc, le grand intérêt de cette réforme, que pour ma part je trouve très positive, c'est de faire entrer le débat communautaire dans les débats locaux. Autre intérêt, c'est que de cette réforme, c'est qu'elle rééquilibre la représentation des communes en fonction de leur démographie. Ça c'est fondamental.
C'est fondamental parce que il se trouvait que, en ce qui concerne la communauté de communes de Villefranche, c'était la ville quand même la plus importante, et les premières répartitions étaient vraiment au détriment du grand nombre de la population de Villefranche. C'était pour mettre en route la machine des communautés de communes, mais maintenant il faut quand même avoir un rationnel qui se rapproche quand même un petit peu de la population.
Et en quoi le nouveau scrutin va-t-il changer quelque chose dans cette...
Il y a plus de les communes à forte population auront plus de représentants à la communauté de communes.
Mais l'addition de plusieurs petites communes pourra peut-être faire plus que la grosse commune. Monsieur Andréotti.
J'aimerais
brûler la patience.
Non, c'est pas du tout. Ce que je crains, c'est qu'il y ait une grande confusion dans l'esprit des auditeurs. En tout cas, tout le monde ne suit pas. Jour après jour, toutes les modifications qui interviennent sur le plan institutionnel et sur les règles du jeu. Ce que je crains, c'est qu'on confonde ici ce que vous appelez réforme sur le mode de scrutin, sur les municipales et les conseillers communautaires, le même scrutin, et la réforme plus générale, dite de décentralisation, qui crée les grandes métropoles, et qui va transférer des compétences et les enlever aux communes et même aux communautés de communes.
C'est que là, on n'est pas concerné.
Non, mais c'est que ces deux réformes sont liées. C'est-à-dire que, pour finir, les gens, on change les règles du jeu. Il n'y a pas. C'est une réforme, celle qui modifie les compétences et qui crée les métropoles et qui va centraliser finalement les pouvoirs de décision, sont un danger, et je ne suis pas ici en train de parler à mon nom, je pourrais citer des présidents de conseils généraux, je pourrais citer même des élus verts, et qui font cette analyse. Donc ce que je vois, c'est qu'on change les règles institutionnelles, on fait voter à la sauvette au Parlement, alors qu'il fallait un grand débat, ce que nous voulions, nous, au Front de Gauche, c'est-à-dire une consultation populaire. On ne peut pas changer de façon aussi brutale et aussi grave les institutions, les règles du jeu de la démocratie, les compétences, sans que les citoyens soient consultés. Alors, à titre d'exemple, ce qui a été possible, par exemple, dans certaines municipalités ou que nous gérons, avec la population qui s'y intéresse de très près, puisqu'il s'agit de centres municipaux de santé créés à Gennevilliers, que nous craignons, c'est que de telles initiatives locales ne puissent plus se décider localement. Cet exemple-là, ou bien à Arles, quand on crée un centre artistique au cœur des quartiers défavorisés, en faisant des populations intéressées des intervenants artistiques.
Est-ce que voilà. les communautés de communes, c'est que les communes de l'Aveyron peuvent être concernées,
monsieur André? dans le déroulement et des, nous serons dans une grande région. Hein, ce qui va se passer, c'est que le texte de loi sur la décentralisation, qui est en fait une recentralisation, va modifier les compétences, si je dis bien. Et ce que nous craignons, pour peut-être pour l'Aveyron, ce sera moins spectaculaire que pour les communes autour de Toulouse, par exemple. Mais à terme, nous allons obtenir, vous le savez, il y aura moins de départements, hein, de conseillers généraux. Les statuts vont devoir changer. Ils auront à couvrir une plus grande surface et ils auront moins de contact avec la population. Ce que nous craignons, c'est de voir la démocratie participative, qui est un beau vœu dont chacun se galvaude un peu le terme, soit plus difficile à exercer au bout du compte. Voilà.
Monsieur Galmette, ces gens qui vont être élus, ces conseillers communautaires, ils vont être élus par le suffrage universel. Bon, moi j'ai retenu que Monsieur Tranier nous disait que au moins on parlerait des politiques de communauté de communes pendant la campagne électorale. Ces gens qui vont donc être élus par le suffrage universel, j'ai mis des réserves, je vais pas remettre ça.
À partir des listes municipales, c'est finalement, pas le suffrage direct.
Est-ce qu'ils vont en tirer plus de pouvoir, à votre avis, dire bah nous sommes élus, nous pouvons maintenant légitimement lever l'impôt, ou est-ce qu'au contraire ils vont en tirer moins en se disant attention, on est quand même sous le contrôle des électeurs?
Non, je pense que ça va pas changer grand-chose si ils doivent quand même plus de comptes directement aux électeurs, quoi. Mais autrement, dans le comportement des élus eux-mêmes, je pense pas que ça changera grand-chose. Honnêtement, sincèrement, on abordera ça de la même manière. Et on fait campagne en même temps pour la commune, mais on fait aussi campagne pour la communauté de communes. Ça fait déjà deux ou trois campagnes électorales qu'on fait dans ce sens. Hein.
Monsieur Archibald, au Parti radical de gauche.
Alors, bien écoutez, j'ai entendu les propos des différents, notamment de mon collègue de l'UMP qui se réjouit de la démocratie que apporte justement ces listes par rapport à la communauté de communes. Eh bien écoutez, vous attendiez une différence entre la droite et la gauche, par exemple, sur des questions municipales ou autres. L'intercommunalité en est par exemple le reflet. Jusqu'à maintenant, depuis 2001, l'opposition n'est pas représentée au sein de l'intercommunalité. Depuis Serge Roch. Avant, sous des municipalités de gauche, Venelle, Jean Rigal, l'opposition a systématiquement été représentée. Il y a eu une volonté politique d'étouffer l'opposition et quelque part de faire un déni de démocratie, puisqu'en fait, on ne représente pas une moitié de la population qui a quand même voté pour une opposition.
Qu'est-ce qui va changer avec ce scrutin?
Ce que ça change, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition va être forcément représentée au sein de l'intercommunalité. Et c'est là la grande avancée. Si on va un peu dans les détails, pour reprendre par exemple Villefranche, il va y avoir 17 délégués communautaires, 9 seront issus de la majorité qui a remporté les élections, et les suivants, la répartition des sièges sera en fonction de la majorité sur le recalcul comme on fait pour un conseil municipal, tout simplement. Donc l'opposition sera bien représentée, que ça soit la droite, la gauche ou quelqu'un d'autre qui gagne, tout le monde sera bien représenté. Et voilà une véritable évolution. Et si le législateur a pris des dispositions par rapport à ça, c'est parce qu'il y avait une faiblesse de certaines personnes au sein des municipalités qui préféraient étouffer toute opposition. Quand on attend par exemple aussi, une volonté de démocratie, il faut aussi faire un retour aux citoyens. S'il n'y a que la majorité tout le temps qui dit ce qui se passe, qu'il n'y ait pas de relais de l'opposition, forcément, on risque pas de parler beaucoup de la communauté de communes.
Oui, je te réponds à Monsieur Sibal qui me fait un petit peu sourire parce on dirait qu'il ignore la situation de la communauté de communes. On en parlait tout à l'heure. Villefranche, qui représente 85% de la population de la communauté de communes, était représentée par 9 délégués communautaires, soit moins de 30%. Et Villefranche, et les élus qui ont remporté l'élection municipale à Villefranche, étaient totalement écartés de la gouvernance de la communauté de communes, où quand même la ville de Villefranche représente, je le répète, 85% de la population et à peu près 90% des ressources de la collectivité. Et par ailleurs, dans les autres communes, il n'y avait pas non plus de représentation des oppositions. Voilà. Donc, je crois que la grande avancée, ce n'est pas tellement que l'opposition municipale soit représentée à la communauté de communes.
Je te remercie de
ce qui relève, ce qui relève de l'anecdote. Mais ça, l'important, c'est effectivement que la ville Sandre soit représentée de façon plus équitable. Et je crois, à la différence peut-être de la situation à Decazeville, que ça va changer beaucoup de choses à la communauté de communes. Parce que jusqu'à présent, effectivement, il était compréhensible que les élus communautaires ne se sentent pas tellement légitimes pour agir, dans la mesure où ils représentaient une toute petite partie, finalement, de la population de la communauté de communes. Demain, ce sera certainement un élu Villefranchois qui dirigera la communauté de communes, et là, les choses seront totalement différentes, et la communauté de communes pourra enfin avoir des ambitions et remplir pleinement son rôle dans toutes ses dimensions. Voilà, donc c'est ça, la vraie différence, elle est là, elle n'est pas tellement dans le fait que deux, trois élus d'opposition villefranchoise fassent partie d'une assemblée où Villefranche est de toute façon marginalisée.
L'opposition n'a pas à être représentée.
L'opposition, si, bien sûr, mais... L'opposition, pour l'instant, c'est la ville centre qui était marginalisée. Alors, je sais que le Parti radical de gauche est très attaché à ses prérogatives de siège, etc. Mais si on raisonne...
Je suis content. Au moins, il y a une véritable différence. Et encore une fois, on peut imager la différence entre la droite et la gauche.
Voilà, sur un sujet totalement mineur, on a une différence marginale.
Je serais moins sûr de vous sur le fait que... que l'opposition soit représentée maintenant, c'est très bien. Vous avez bien fait de le signaler, M. Orsibat. Mais moi, je veux noter qu'à Decazeville, par exemple, l'opposition n'était pas représentée. Donc, on peut être de droite et de gauche et pas respecter non plus la démocratie. Hein.
Alors, il faut que tout le monde soit chez les radicaux de gauche.
Je remettrai une couche, si je peux me permettre. On n'a pas le cas dans l'Aveyron, mais on a le cas dans d'autres départements où la communauté de communes est formée de deux bourgs, enfin, de deux villes centres. Hein. Toutes les deux, d'une de 15 000, une de 12 000, avec une qui désignait des représentants de l'opposition, une autre qui ne les désignait pas. Enfin, ça compliquait beaucoup les choses. Parce qu'il arrive que des communautés de communes soient constituées, entre autres, de deux villes d'égale importance.
Et tout ça pour revenir à Villefranche, je ne crois pas que M. Couronne ait écrasé quand même Villefranche. Il ne me semble pas, hein.
Mais
vu de Decazeville, peut-être.
c'est pas qu'il est écrasé, c'est que Villefranche s'est trouvé marginalisé au sein d'une communauté qui a eu une action très, très réduite. À un moment où les collectivités ont pris, les communautés de communes ont pris en France une ampleur et un rôle et un développement important. Et à Villefranche, on a une communauté de communes qui, en 17 ans d'existence, en 17 ans d'existence, la communauté de communes a à peu près réussi à construire son siège. Voilà. Pour 9 millions d'euros, ce qui est un très beau bâtiment, mais à l'échelle du territoire, c'est peut-être
minime comme résultat. Est-ce que nous devons comprendre que si la majorité municipale de Villefranche restait ce qu'elle est aujourd'hui, la communauté de communes engagerait des dépenses considérables?
Elle n'engagerait pas des dépenses considérables. Elle aurait des projets, ce qui est nouveau, à hauteur des moyens très importants dont elle dispose aujourd'hui. Voilà. Et des projets au service du territoire. Je répète, sa première compétence, c'est le développement économique. Alors, nous avons maintenant une pépinière d'entreprise à Villefranche, c'est très bien, mais ça fait 10 ans, 15 ans qu'il y en a partout ailleurs. Donc, on a pris un retard considérable dans ce domaine comme dans d'autres. Et je pense que demain, si on a enfin une communauté de communes légitime pour agir, parce que représentant réellement la population du territoire, eh bien, on pourra avoir des actions importantes, bien sûr.
Le fait que le législateur ait senti le besoin de rééquilibrer les choses, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Effectivement, dans notre communauté de communes, Villefranche comptait, pour du beurre.
Oui, mais alors expliquez-moi pour les cantons. Parce que pour les cantons, il fallait rééquilibrer aussi. Et je vois que les conseillers généraux ne sont pas d'accord. Et là, j'arrive pas à comprendre. C'est vrai qu'il y avait des cantons où on pouvait être élu avec 400 voix et d'autres où il fallait 20 000 voix pour être élu. Et qu'il y ait un certain équilibre, ça me semble quand même un peu plus justifié.
Pour les cantons, il y a d'abord, on n'est pas aux élections cantonales,
oui,
là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contestations, et aussi bien d'ailleurs de droite que de gauche. Il y a certains cantons qui sont... Il y a un canton dans le sud Aveyron qui est absolument dément. Alors, en fait, là, on est passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que on a fait la règle de la population sans tenir compte des bassins de vie. Et ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas ni pour la droite, ni pour la gauche, ni pour le centre.
Juste une petite réflexion quand même pour nous les radicaux de gauche, hein, par rapport à cette réforme des cantonales qui est juste qu'une aparté, je suppose, par rapport à votre mission.
On avait fait une émission sur les cantonales, tout le monde avait dit oh, ça va s'arranger, il y a des recours, tout le monde était à peu près satisfait, et puis après, quand la découpage est arrivée...
Juste nous, la seule chose qu'on veut dire, c'est que d'avoir réduit le nombre de cantons, bon, pourquoi pas, la seule chose, c'est que nous, on aurait estimé que au niveau de la logique... dans ces temps de crise où on réduit les choses, il fallait réduire le nombre d'élus communautaires, à la limite, pour faire des économies, ou alors il faut avoir réellement une certaine proximité. Mais aujourd'hui, simplement sur l'autel de la parité, de s'engager dans une telle réforme, on est les seuls dans le monde à l'avoir fait, comme ça, sur ce système-là. C'est un système qui est unique, on va voir ce qu'il donne, mais aujourd'hui, ce qu'on peut regretter...
Ça, le scrutin binominal.
Voilà, ce qu'on peut regretter quand même, c'est que au final, on a le même nombre d'élus.
Oui, c'est ça.
Est-ce que je peux me payer un petit peu d'ironie ? Est-ce que vous reprocheriez la fusion sarkozienne des conseillers cantonaux ou départementaux et des conseillers régionaux qui réduisaient effectivement le nombre d'élus, et ce qui était quand même une réforme qui était qui allait dans le sens de la simplification du millefeuille administratif qui nous coûte tant et dont on est les seuls, à bénéficier, si j'ose dire.
Bon, on va revenir au municipal, hein, après cette parenthèse, cette large parenthèse cantonale, on va revenir au municipal. Et on a donc envisagé la parité, on a vu l'influence que ça allait avoir sur les conseils communautaires, et notamment sur la campagne électorale qui allait enfin parler des communautés de communes. Maintenant, on pourrait peut-être en venir à des choses un petit peu politiques. Notamment, il s'était dit beaucoup de choses sur les regroupements possibles de second tour. J'ai regardé la nouvelle loi, enfin la loi renouvelée, pour les communes donc de 1000 habitants et plus, hein, beaucoup plus, le second tour se présente comme auparavant dans les communes de plus de 3500, et dans toutes les communes de plus de 3500, il faudra avoir 10% des voix pour se représenter au deuxième tour, et avoir eu 5% pour avoir le droit de prétendre fusionner avec une liste qui aura fait plus de 10%.
Des exprimés, je crois. Hein.
Des exprimés, absolument, ouais. Des exprimés. Alors, est-ce que là, il y a un changement ? Parce que j'avais entendu des voix dire que ça n'était plus par rapport aux inscrits, où il fallait 12,5, mais ça, c'était valable pour les législatives ou les cantonales. Pour les municipales, je ne sais pas si... Il me semble qu'il n'y a pas de... Là, tout le monde se défausse autour de la table, moi compris, d'ailleurs. Donc, comment pouvons-nous augurer les regroupements en Aveyron avec ces 10% et 5% compte tenu des constitutions de listes est-ce que le maintien de certaines listes vont entraver ou perturber le résultat du deuxième tour, Monsieur Tranier?
Bon, il faut voir au cas par cas. Prenons le cas de Villefranche. Il y a des cols, puisqu'il semble qu'on dirige vers deux listes en présence, ce qui nous fera un seul tour, a priori, hein, sauf, on ne sait jamais. Donc, pas de fusion, ni rien. Après, faut regarder, hein, à Rodez, le cas peut se présenter à droite comme à gauche, de fusionner des listes, enfin, j'en sais rien, j'ai pas d'informations en particulier. Peut-être qu'à deux Casseville, la question se pose, je ne sais pas si, du coup, Monsieur Calmette, je vous refile le ballon.
Alors, Monsieur Calmette, à deux Casseville, c'est histoire de 5, 10...
Alors, pour l'instant, de déclarer, il y a une seule... Enfin, même pas déclaré officiellement, il n'y aurait qu'une seule liste, celle de l'union entre le Parti Socialiste, le Front de Gauche et Europe Écologie Les Verts. Pour l'instant, avec une large liste où il y aura des simples citoyens qui seront à l'intérieur.
Donc là, il faut renvoyer la balle à Monsieur Tranier pour lui demander pourquoi il n'y a pas de liste UMP, UDI...
Puisque le maire actuel n'a pas eu l'aval du Parti Socialiste, il a été mis en minorité, et c'est donc un autre candidat qui conduira la liste d'Union. Mais le maire actuel veut faire sa liste. On ne sait pas s'il va y arriver. On pense aussi également que l'opposition, c'est-à-dire la droite, va sûrement présenter une liste. Et le Front National avait une volonté de présenter aussi une liste. Donc, il y aurait peut-être 4 listes. Mais pour l'instant, c'est très aléatoire.
Richesse politique à Decazeville.
Voilà. Mais c'est vrai que le seuil de pouvoir se maintenir à 10% des exprimés peut faire des triangulaires un peu partout. Même
c'était
peut-être
ma
des,
question.
Des quadrangulaires, hein, oui. À Rodez peut-être, ou... Enfin, dans l'Aveyron, il n'y a que Rodez peut-être qui risque d'être intéressant. Monsieur Trin.
Monsieur Tringuet, oui, j'apprécie Decazeville.
Non, il y aura certainement une liste au droit et du centre, mais j'apprécie l'humour de Monsieur Calmette qui dit, je pense qu'il y aura qu'une liste, la mienne, je pense.
Pour l'instant.
Pour l'instant.
De pratiquement déclarer.
Mais bon, pour rassurer les auditeurs de Decazevillois, je pense ils auront le choix, un large choix. La question des triangulaires se posera.
Un choix tellement large qu'il y aura des triangulaires.
Se posera en Aveyron. Bon, c'est difficile de faire des pronostics. On a pas de sondage. On sait pas tellement où en sont les uns les autres. En France, il y aura certainement dans un grand nombre de grandes villes des triangulaires. Oui, avec l'incertitude que ça suppose.
Si,
sur...
si le Front National a autant de mal à constituer ses listes qu'il a de mal à être présent à table ovale, on est un peu à l'abri peut-être.
Enfin bon, en tout cas au niveau national, il y aura certainement un grand nombre de triangulaires et avec voilà un résultat qui du coup est très très aléatoire.
Monsieur Archibald, comme vos camarades socialistes ont été empêchés, est-ce que cette histoire de 10% des exprimés, est-ce qu'il n'y a pas une arrière-pensée justement sur les triangulaires quand même? Est-ce que c'est pas bien intéressant?
Non, le but est toujours de gagner dès le premier tour. Non, c'était de l'humour. Non, faudra toujours regarder par rapport à ceci, système de triangulaire, bien sûr, mais bon, je sais pas aujourd'hui, comme le disait mon collègue de Decazeville, à mis à part Rodez, où c'est qu'il y a plusieurs villes, voilà, où il y a des différentes listes qui se présentent. Bon, voilà. La question reste en suspens, quoi. Aujourd'hui, personne autour de la table est capable de dire où c'est que ça se présente plusieurs listes dans une ville, quoi. Voilà.
Oui, à Millau, je pense qu'il y en aura plusieurs, mais c'est vrai que les choses sont pas décantées complètement partout. Après, sur les questions des seuils, bon, on connaît quand même le cynisme, hein, aussi du Parti Socialiste et qui n'est pas représenté autour de la table, malheureusement, mais qui est au niveau national, très souvent dans un calcul, quand même, d'essayer de conserver dans un second tour l'extrême droite, le Front National. Pour espérer l'emporter sans avoir la majorité absolue. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, qui est ancien et qu'on est obligé quand même d'évoquer, même si c'est triste.
Monsieur Andréotti.
Il faudrait pas tomber dans l'angélisme à ce sujet. Est-ce qu'on a peur de la triangulaire? Pourquoi? Et est-ce que à quoi on pense? Eh bien, il faut être clair. Premièrement, s'il y avait une proportionnelle, un système plus juste dans ces élections, certainement, le problème serait réglé dans la mesure où on y verrait plus clair aussi.
Par exemple, Monsieur Andréotti, on l'a eu la proportionnelle dans la 4e République et on sait comment elle a fini.
Non, on sait pas.
Les centristes sont plus ou moins proportionnels.
Non, je voulais simplement faire remarquer que...
Il faut une petite portion de proportionnel. Mais il ne faut pas de la proportionnelle intégrale, c'est de la démagogie pure.
On va laisser finir, Monsieur Andréotti.
Monsieur Andréotti, excusez-moi. C'est pas grave, c'est simplement pour la clarté et pour les auditeurs, hein. C'est entre nous, il n'y a pas de problème. Je voulais faire remarquer que dans de nombreuses villes, l'UMP et le Front National ont des, plus que des acquaintances, mais des petits arrangements. Et voici des faits. Un maire UMP des Alpes-Maritimes, monsieur. Maire de Malocène, rejoint les rangs du Front National, tandis que celui de Sainte-Marie-de-la-Mer est investi à nouveau par l'UMP. De leur côté, le FN cherche ses têtes de liste à l'UMP. Benoît Candel, ex-adjoint de Christian Estrosi à Nice, suspendu par l'UMP après s'être fait pincer dans ses relations avec la famille Le Pen, et va devenir peut-être candidat pour le FN. Manque de cadre, peut-être, Marine Le Pen a réussi à débaucher près d'une quinzaine de membres de l'UMP. C'était le 30 octobre. Alors je pense que soit on veut mener le combat contre l'extrême droite, et on le fait sur le plan des idées et sur le plan de la, sur le terrain social, parce que c'est ainsi qu'on explique les abstentions quand on parle. Je crois qu'on est un peu pas nous ici spécialement, mais un peu tous pris par le ronron des élections, et on n'a peut-être pas fait attention aux élections partielles, que c'était les abstentions qui avaient gagné, hein, 60 et quelques pourcents à Brignoles et ailleurs. Et ça, ça pend au nez de tout ce qui se présente, ce discrédit. Donc je crois qu'on a un gros travail à faire pour rapprocher les citoyens de ce qui les concerne et qu'ils prennent leurs affaires en main. Parce que finalement, je vais terminer là-dessus, bien des questions se posent pour... c'est pas simplement les arrangements au second tour ou le type de modalité du scrutin.
Je vais revenir vers Bernard Mort pour la proportionnelle, mais dans la façon dont les gens s'assemblent, se rassemblent, Monsieur André Otti, est-ce que, alors je ne sais pas en Aveyron, mais on est là quand même pour parler essentiellement d'Aveyron, mais puisque vous parlez d'ailleurs, est-ce que le Front de Gauche se présente partout unis, c'est-à-dire que quand vous décidez de faire une liste séparée, est-ce qu'il y a des communistes qui vont avec les socialistes, d'autres qui vont seuls ou pas?
C'est assez simple. Le cas de Paris est un cas particulier. D'autre part, il avait été décidé, comme je l'ai dit, que ce sont les adhérents qui vont décider et pas les états-majors. Donc, il peut y avoir des différences entre les villes. C'est logique. Et je ne vois pas pourquoi ce serait fâcheux. Je ne vois pas pourquoi on ferait les municipales un terrain d'affrontement du même type que toutes les autres élections contre le pouvoir quel qu'il soit. Les municipales, c'est conçu pour nous comme le vivier de la démocratie participative, active. Et donc, on a à Paris, effectivement, sur la base d'un bilan, parce que c'est pas comme ça sur la bonne mine des candidats, hein, mais sur les bilans, qui ne sont pas à rejeter à Paris. Nous avons à Toulouse aussi choisi, enfin, ils ont choisi, nous, on n'est pas concernés, c'est décider localement et voter après des débats qui sont très longs, qui ont été très longs et très organisés. À Toulouse aussi, ils ont choisi de partir avec le maire sortant. Par contre, dans beaucoup d'autres villes, Bordeaux, Nice, Montpellier, Lyon, Clermont, ce n'est pas le cas. C'est une liste Front de Gauche. Et dans la majorité des cas, ce sera ça. Ce sera une liste Front de Gauche. Il y a spécificité de quelques grandes villes ou de quelques villes où le parti de gauche a créé des problèmes en étant un petit peu maximaliste. Il faut à tout prix afficher, faire une campagne anti-gouvernement. Ouais. Voilà. Donc là, localement, il y a des grandes différences, mais on peut dire que la majorité des listes seront Front de Gauche dans le pays, et même dans de très grandes villes.
Il y a des éclaircissements. Bernard Mort, sur le... Et après, je vais donner la parole à M. Tranier, mais sur la proportionnelle, finalement, il y a une époque où on a parlé d'instillation de la proportionnelle, cette façon d'avoir de la proportionnelle avec ce scrutin qui était celui des villes de plus de 3500 et qui va être celui de tout le monde. Est-ce que ça vous paraît une proportionnelle qui vous convient? Parce que les centristes ont longtemps été pour la proportionnelle quand même.
C'est un fait que il y a beaucoup de centristes qui étaient pour la proportionnelle. Bon, la proportionnelle intégrale, on en a déjà parlé, ça a été une catastrophe, ça rend les communautés, ça rend les instances électives ingouvernables. Et sorti cette histoire là du scrutin de communes qui en fait a inspiré beaucoup de choses. Je vous rappelle en gros le principe, la liste qui remporte au premier tour à 50% des sièges, et les 50% restants sont répartis au prorata de chaque liste. Et ça, ça permet d'avoir une instance qui est dirigible, qui peut faire appliquer son programme, tout en laissant une part aux petits partis qui peuvent eux, siéger et être le témoin de, des débats et éventuellement contester telle ou telle emprise majoritaire. Donc, le système communal semble avoir, le système d'élection communale semble avoir, tout en étant majoritaire et en ayant une tonalité proportionnelle, semble avoir remporté les suffrages d'environ de l'ensemble de la communauté politique.
Alors, monsieur Tranier, sur la capillarité environnementale de l'Union pour un mouvement populaire qu'a évoqué monsieur.
Oui, mais je voulais rebondir là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire docteur Mort. Le système actuel me semble très bien puisqu'il permet à une collectivité d'être dirigée et en même temps à l'opposition d'être représentée. Monsieur Andréotti a parlé d'électeurs et ou de membres de partis de droite qui passent au FN. C'est vrai qu'il y a, il y a des exemples et il y a aussi des exemples de gens du Parti Socialiste qui sont passés au FN et aujourd'hui on sait que c'est l'ancien état-major de Jean-Pierre Chevènement qui constitue celui de Marine Le Pen et même de
d'exclus depuis longtemps
au Parti et même du Front de Gauche, oui, il est quelque part tout de même, mais enfin, donc tout ça, et d'ailleurs souvent ils en reviennent assez vite, parce que le FN, on l'a vu dans l'actualité récente, on sait ce que ça reste hein, en termes de racisme. Hein, il y a eu des exemples récents. Donc bon, là, je crois que c'était pas très loyal d'évoquer ces choses-là.
Si c'était une tendance forte que...
C'est plutôt un fantasme fort dans certains secteurs de la gauche et de l'extrême gauche,
etc., ont bien initié sous Sarkozy. Et si c'était une tendance très forte, au contraire, n'ayons pas peur de nous poser la question.
Mais on peut se poser les questions, vous avez raison. Après, pour le reste, on sait que les élections municipales locales sont souvent l'occasion pour les électeurs de manifester leur mécontentement. Et quand tout à l'heure on parlait du rôle des partis politiques, je vous ai dit que localement, l'UMP n'a pas de rôle particulier. Après, au niveau national, il est dans un rôle aussi d'opposition. Et c'est vrai que la situation actuelle du pays fait que certains thèmes qui suscitent, certains sujets très nombreux qui suscitent le mécontentement sur la fiscalité, sur la situation économique, sur le chômage, vont certainement pousser les électeurs à sanctionner le gouvernement en place. Et donc, c'est au niveau national que l'UMP joue ce rôle-là.
Le rôle électeur, puisque vous nous avez expliqué tout à l'heure que les municipales n'étaient pratiquement pas politiques.
Localement, je pense que effectivement, sur des sujets locaux, non, il n'y a pas à politiser ou à rendre idéologique les oppositions. Après, on ne peut pas empêcher les électeurs de sanctionner parce qu'ils sont mécontents. La gauche, le Parti Socialiste, le Parti Radical de gauche qui est aussi au gouvernement, parce qu'ils sont mécontents des politiques nationales.
Est-ce qu'on pourrait parler aussi quand même un petit peu des programmes locaux? Et on a assisté hier au vœu du maire qui était en fait un bilan de son mandat. Moi, j'ai trouvé ça assez remarquable. Il a fait beaucoup de choses. Et je dois dire que il y avait beaucoup de monde pour assister. Je dois dire que entre le docteur Rigal, son prédécesseur, et lui, il y a vraiment pas photo. Hein. Il y a quelqu'un qui a travaillé et remis sur le tapis son travail et qui a perfectionné ses affaires. Et vraiment, les radicaux de gauche.
Avant de donner inévitablement la parole à monsieur Arcelin, je vais vous donner la parole. Vous avez la parole d'ores et déjà. Mais je veux préciser que CFM, bien sûr, recevra avant le premier tour les s'il y avait deux listes, on ferait tout de suite un débat au premier tour d'ailleurs. Enfin, on recevra les candidats pour le premier tour et on organisera bien sûr un débat pour le deuxième tour. Hein. Donc, on n'est pas prématuré, mais un petit peu, d'une certaine manière. Monsieur Arcibal.
Bon, mais je suis content de voir que l'UDI fait partie du fan club de Serge Roch. En tout cas, nous, on était aussi présents au vœu, et c'est pas pour ça qu'on va voter Serge Roch, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde que tout le monde est derrière, dans une euphorie totale. Alors ensuite, je pense pas que l'objet de l'émission, c'est de rentrer dans le programme franco-ville-franchois, et donc je préfère pas rentrer là-dedans. Mais aujourd'hui, quand vous parliez tout à l'heure d'un rôle de parti politique, par rapport à des élections. Monsieur Tranier l'a dit, c'est pas qu'une histoire de parti. Et en effet, par exemple, à Villefranche, la liste qui sera conduite par Éric Cantournet, radical de gauche, en effet, sera une liste avant tout citoyenne qui s'appelle Atout Villefranche, qui a été créée lors des municipales précédentes, et où l'essentiel des personnes ne sont pas encartées dans un parti politique. C'est une concorde des citoyens qui s'aperçoivent que par rapport à ce qui est mené à aujourd'hui, il y a vraiment des incohérences et qui veulent travailler dans ce but-là. Et en effet, ça rassemble des gens de gauche, des gens du centre droit, et voilà.
Alors, comme je vous l'ai dit, on aura des émissions tout à fait spécifiques
là-dessus. Mais bien sûr, c'est mal oublié de quand même d'évoquer les tractations un peu pénibles qu'il y a eu entre le Parti radical de gauche, le Parti socialiste, il y a quelques semaines, qui ont donné lieu à un certain nombre de mises à l'écart. Il faut encore grincer. Et je dois dire que, pour ce qui est de la liste qui aura en face de celle qu'il évoquait, nous sommes totalement libre de ce type de tractation, et c'est une bénédiction.
Pas les mêmes difficultés qu'à Paris, MoDem, UDI, ces complications.
Il est hors de question d'entrer dans un débat de on veut 4 comme ceci, 3 comme cela, à telle place et à telle place. On est sur une liste de Villefranchois qui ont des compétences, qui veulent s'engager pour Villefranche et qui seront là pour faire le travail indépendamment de toute idéologie.
Et alors, je me permets juste de répondre, parce que c'est toujours intéressant de mettre l'idéologie de côté. En effet,
Surtout le mot compétence, c'est terme qui peut tromper. On peut être très compétent pour avoir les jets d'eau à 450 millions d'euros.
Pas tout à fait autant.
J'aimerais qu'il y ait un audit clair là-dessus. Mais bon, sur le problème de la sémiologie, compétence.
Bon, rapidement, M. Fiat, parce qu'on arrive au terme.
Oui, non, juste...
Municipalité d'experts, de techniciens.
Vous concluez, vous répondez à M. Tranier rapidement.
Mais oui, tout à fait. Donc, en fait, en effet, c'est une liste de citoyens qui sera donc avec donc des personnes qui sont représentatives avant tout de la société, et ce qui est important, qui ont leurs idées, et qui partagent quand même un socle de valeurs, et qui ne veulent pas, certainement pas travailler dans les mêmes conditions qu'a travaillé aujourd'hui la municipalité. On peut parler aujourd'hui...
On verra tout ça en détail.
Excellente condition, monsieur Sivan.
Dans les émissions de la campagne électorale. Donc c'était la première de Table Ovale sans ellipse, de la première de 2014. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'une part, on est à Rodez à la fin du mois. On reprendra nos rythmes de fin de mois ensuite. On aura un CFM, bien sûr... recevra les candidats aux élections municipales et vous serez bien sûr tenu au courant. Donc ce soir, Table Ovale sans ellipse, autour de Claude Heuzin, Angelo Andréotti pour le Parti communiste français et le Front de Gauche, Bernard Mort pour l'Union des démocrates et indépendants, Jean-Louis Calmette pour Europe Écologie Les Verts, Jean-Sébastien Orcibal pour le Parti radical de gauche et Laurent Tranier pour l'Union pour un mouvement populaire à la fin du mois à Rodez et à la fin de l'autre mois à Villefranche. Bonne année à tous.
Merci.
Merci.